Général Comins, bonsoir.
Bonsoir madame.
Pourquoi avoir pris la décision de supprimer finalement ces bases au Nord Kivu quand il reste autant de groupes armés?
Effectivement, il reste encore des groupes armés, en particulier au Nord Kivu. Ceci étant, avant la fermeture de ces bases, nous avons procédé à une étude extrêmement précise de la nature des violences qui se déroulent dans la zone du Nord Kivu. Et on observe que les groupes armés sont principalement sur l'est du Nord Kivu, dans les zones extrêmement convoitées aujourd'hui, que c'est là où on trouve essentiellement des groupes armés très violents. La situation sécuritaire autour des bases, qui sont celles qui vont être fermées, est d'une autre nature. On observe essentiellement des affrontements interethniques ou intercommunautaires. On observe davantage d'actes de banditisme, de revendications pour la possession de la terre. Donc la nature de la violence est différente de celle qui est exercée par des groupes tels que les FDLR, par exemple. Et puis une autre raison qui a fait que ce soit plutôt ces bases qui ont été retenues, c'est qu'on a aussi regardé quelle était la présence des forces armées congolaises. Avec la nouvelle manière d'agir que nous avons développée, eh bien, nous considérons que nous pourrons continuer de manifester, de montrer la présence de la MINUSCO, qui ne sera plus permanente, mais qui sera une présence réelle par différentes actions que nous allons conduire, soit par hélicoptère, soit par véhicule, à base de déploiement de bases de volume et de durée limitée.
Ça arrive quand même souvent que quand une base de la MONUSCO, qu'elle soit permanente ou temporaire, ferme, on voit une recrudescence de violence derrière. Ça crée un vide.
C'est tout à fait juste que l'on peut avoir cette réaction-là, je dirais, spontanément. Ceci étant, nous avons aussi une expérience maintenant de fermeture de base. Sur l'année qui s'est écoulée, ce sont pas moins quand même de 9 bases ou détachements que nous avons fermés. Et on a bien observé comment la situation avait évolué. On n'a pas eu à déplorer, Dieu merci, d'incidents graves depuis leur fermeture. Pourquoi ? La force n'est qu'un des acteurs. Et autour de nous, beaucoup d'acteurs, des acteurs gouvernementaux, des administrateurs territoriaux, les femmes, qui ont un rôle extrêmement important dans ce pays, les autres acteurs de l'ONU, les agences. Eh bien, il y a eu un gros travail qui a été fait pour engager un dialogue, entretenir le dialogue qui a été lancé lorsque nous étions présents, et permettre que les communautés qui, avant que nous n'arrivions, s'affrontaient, que les situations s'apaisent. Certes, tout n'est pas parfait, il y a encore des éruptions de violence ici ou là, mais globalement, nous avons observé une diminution, soit des violations des droits de l'homme, soit des violences intercommunautaires.
La solution de remplacement pour ces bases, c'est d'avoir des unités mobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les capacités de projection nécessaires? Parce que ça a été un problème aussi que vous aviez ce manque de moyens.
Tout à fait. Nous n'avons pas d'autre choix que de changer de mode de fonctionnement. Cette contrainte forte qui nous est faite de diminuer, de fermer ce bataillon, nous impose d'agir différemment. Ça va être essentiellement des détachements de faible volume, une quarantaine d'hommes qui vont avoir pour mission d'effectuer des déplacements et de s'installer sur une zone ou à proximité d'une zone où nous étions précédemment, de manière à pouvoir être présent et de pouvoir réagir, si les accès routiers le permettent, dans des délais le plus courts possible. Et là, j'ajoute, pour autant que les systèmes d'alerte communautaire que nous avons déployés nous permettent soit d'anticiper une menace, d'intervenir avant que la violence n'éclate, ou alors d'intervenir très vite dès lors que l'information nous sera parvenue.
Parce que parfois, ça se passe au milieu de la nuit, parfois ça se passe très tôt le matin,
oui.
Parfois ça dure qu'une heure ou deux, c'est ce type d'attaque.
Oui.
C'est vrai que ça complique toute intervention à distance.
C'est vrai que c'est une situation qui est difficile, mais elle n'est pas nouvelle. Nous sommes un acteur, mais l'acteur principal qui reste en charge de la sécurité des hommes et des femmes de ce pays, ce sont d'abord les forces de sécurité et les forces armées congolaises.
Par exemple, la base de Luofu que vous fermez, elle était présente, et c'est vrai qu'il y avait eu des massacres, des retards parfois dans les délais d'intervention par rapport à ces bases-là. Comment vous arriverez vraiment à percevoir par avance qu'un massacre va avoir lieu ou qu'il va y avoir une attaque d'un groupe armé sur une localité? Vu que c'est déjà difficile quand il y a en permanence des casques bleus sur la zone.
Cela reste une difficulté. Personne ne saura lire dans le marc de café et dire « il se passera quelque chose demain » sans que nous ayons reçu une information.
Vous dites que vous appuyez sur l'armée congolaise et sur le fait qu'il y a un déploiement de l'armée congolaise pour retirer aussi ses bases, mais au sein de la population ou parfois de la société civile, on met aussi en cause l'armée. Est-ce que vous ne vous fiez pas trop à votre partenaire congolais?
Je pense que le dialogue extrêmement étroit que nous avons avec les partenaires des forces armées congolaises est suffisamment franc pour que nous puissions leur dire clairement lorsque nous avons des doutes ou des certitudes sur les comportements de tel ou tel détachement sur le terrain. Et il y a actuellement un vrai travail qui est fait pour justement continuer à les inciter à être extrêmement soucieux du respect des droits de l'homme, du respect des populations au bénéfice desquelles elles travaillent.
Merci, Général.